Ok. On va commencer Bezrat Hashem Rabotai, notre troisième cours sur le chapitre 31. Le chapitre 31, hein, c'est un chapitre qui parle de l'importance de la joie qui vient après la tristesse. Pour ceux qui étaient présents hier, c'est un point que mon père aussi en a parlé. La notion que une personne qui peut apprécier la joie, c'est seulement une personne qui est passée par la tristesse. Après la tristesse vient la joie.
C'est évident.
Et on a expliqué, M. Benita, c'est pas évident. Excusez-moi de vous reprendre, mais c'est pas évident.
C'est pas si évident.
C'est pas du tout évident. Et on a expliqué, bon, s'il vous plaît, je commence. Donc, on a expliqué en tout cas que le Benoni, il va faire un effort pour rester joyeux dans tous les cas. Et il faut bien faire la différence entre la tristesse et la déprime. On n'a pas peur d'être triste, c'est pas grave. Et alors, il va faire un teshuvah, alors il verra qu'il a fait d'Averot, ben il sera triste. Et alors, c'est quoi le problème? Tant qu'il n'est pas déprimé, c'est pas grave. Seulement, on avait conclu dessus la semaine dernière, comme la nuance entre la tristesse et la déprime est très très fine, que quand je commence à penser à ma Averot, je peux très rapidement tomber dans la déprime. Et quand on sombre dans la déprime, c'est très difficile de se relever. C'est pour ça que l'Admor Hazaken dit, la technique, c'est que à quel moment je pensais à mes Averot, un moment qui était de toutes les façons prévu pour ça, ou bien un moment dans lequel de toutes les façons je suis déjà down, je suis déjà pas bien. Par exemple, si une personne il est pas bien parce que ses affaires ne vont pas comme il faut, etc., il va profiter de ce moment pour, dans le même paquet, penser à toutes les choses qui vont pas, comme ça au moins il règle tous les problèmes. Cependant, dit l'Admor Hazaken, il avait dit que faut savoir qu'une fois qu'on a la tristesse qu'on est loin d'Akadosh Baruch Hu, après cette tristesse vient une simcha extraordinaire. Il avait donné des images extraordinaires la semaine dernière. Il avait dit que finalement notre Neshama est comme un prince. Comme un prince qui a été pris en captivité. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire ce prince? Ce prince, il est en train de moudre. Hein, vous vous rappelez, on a dit la semaine dernière, ce qui devait moudre à l'époque, c'était vraiment le métier le plus dégradant parce qu'il remplace un animal au final. Parce qu'il faut tirer une meule. Donc, faut tirer ou pousser une meule, donc c'est très très dur. Et imaginez, on prend un prince qui a été pris en captivité et qui se retrouve à faire des choses comme ça et qui traîne dans la boue, qui traîne dans les bêtises, qui traîne dans la saleté. Alors, de la même manière, notre Neshama, c'est un prince. Et quand notre Neshama l'a fait descendre sur terre, tout ce que le corps fait, la Neshama est obligée de suivre. Donc, quand je fais une Avera, la Neshama est là. Donc, imagine-toi, chacun de nous doit s'imaginer que lorsque je fais une Avera, j'ai tiré ma neshama dans la galère. J'ai tiré ma neshama dans les bêtises. Lorsque je fais teshuva, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est comme si je suis en train de libérer un prince de l'exil dans lequel il se trouve. Et donc, c'est pour ça, il a expliqué que ça, c'est la vraie simcha. La simcha d'une personne qui fait teshuva et qui arrive à sortir de la saleté dans laquelle il se trouve, c'est une simcha extraordinaire qu'un tzaddik ne connaît pas. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il ne sait pas ce que c'est être dans la galère, il ne sait pas ce que c'est être dans la tristesse, il ne sait pas ce que c'est être dans la bêtise, dans la saleté. Mais une personne qui sait ce que c'est être dans la saleté, c'est là qu'il appréciera la liberté. C'est là qu'il appréciera le fait d'avoir été libéré, et donc la liberté de la neshama. Donc tout ça, c'était pour expliquer que le but de la tristesse n'est jamais la tristesse en soi, mais c'est la joie. Et ça, je pense, c'est un point très très important de la chassidoute. Très important. Et que même par exemple, bon, il y a des moments où on doit passer par la tristesse. Comme par exemple, voilà, hier on était là, ben c'est normal, quand on est dans un moment où on parle d'une personne qui est partie de ce monde, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la joie, il y a un temps pour la tristesse. Mais même quand il y a un temps pour la tristesse, l'approche de la chassidoute dit que la tristesse n'est jamais un but en soi, jamais. C'est jamais un but en soi. Le but de la tristesse est de te permettre de réaliser ce que tu as fait pour mieux après décoller. Il y a des gens pour qui être triste, c'est un but. Il y a des gens comme ça, angoissés, ils ont la ramma, comme ça, tu le vois. Pour lui, dès qu'il est angoissé, c'est bien, tu vois, il est en bonne vitesse de croisière. Il y a des gens comme ça.
C'est une maladie, ça.
Non, mais c'est vrai, c'est très sérieux. Je suis très sérieux, ça veut dire qu'ils se complaisent, et pour eux, hein, c'est un style. C'est un style. Ouais, c'est... Tu vois, il est bien, tu vois, il fait la tête, hein, comme ça. C'est son état d'esprit.
On dit qu'il est ténébreux.
Il est ténébreux. Et la chassidoute te dit pas du tout. Alors imaginez cette personne-là. Imaginez une personne, il a fait les 400 coups quand il était jeune, et après il fait teshuva à 30 ans, il décide de revenir, et toute sa vie après il a un visage angoissé. Zerma, il fait teshuva sur sa verrote. Pourquoi Zerma? Il fait teshuva sur sa verrote. La chassidoute te dit c'est pas bon. Chassidut te dit, c'est pas comme ça quand j'ai envie de vivre. La solution, c'est que même si on doit passer par des phases de teshuvah, qui sont forcément des phases de tristesse, mais le but de la tristesse, c'est pour la joie qui suivra. Comme dans le Tikkun Chatzot. Le but de la tristesse, c'est pour la joie qui suivra. Ça veut dire que la tristesse n'est jamais un but en soi. Il y a d'autres religions dans lesquelles c'est comme ça. Être triste, c'est un but.
Et c'est notre niveau, tout ça?
Bien sûr, c'est notre niveau.
Je suis pas d'être inaccessible.
Pourquoi? Être joyeux?
Non, je ne parle pas d'être joyeux.
Arrêtez l'alcool, je parle pour une
minute. De la comparaison que tu fais.
Arrêtez l'alcool entre deux.
Mais c'est, chaque fois que...
Libère le train.
Mais bien sûr, je te donne un exemple. Chaque fois que je suis tenté à faire une Avera, et que je descends vers l'Avera, et qu'avant de la faire, je me retiens. Ou j'ai envie de faire l'Avera et je me retiens. C'est comme si je sauvais le prince.
Ah d'accord, ok.
Chaque fois. C'est-à-dire que c'est comme si je prends un prince, je le jette dans les toilettes. Il y a même une image très forte qu'elle avait donnée dans le chapitre 7. Il dit que quand on fait une Avera, c'est comme si on prend la tête du roi et qu'on la jette dans les toilettes. C'est ma mâche, ça. C'est ce qu'on est en train de faire. On prend la Neshama, on la descend. Donc, c'est pas pour nous angoisser qu'on dit ça. C'est pour dire que lorsque Baruch Hashem, on arrive à se reprendre, là, on a une simra. On dit Baruch Hashem, j'ai réussi à...
C'est pour ça qu'on doit être en simra.
Exactement.
Parce qu'on a réussi.
Parce que j'ai réussi.
À pas aller vers le bas.
Voilà. Et donc, ça veut dire que la teshuva doit jamais avoir comme but la tristesse. On a connu des gens comme ça. J'ai connu, moi, des gens comme ça. Des gens qui étaient tout le temps pas bien. Ils sont dérangés de leurs fautes. C'est bien d'être dérangé des fautes. Mais être dérangé des fautes, c'est pas un but. Le but d'être dérangé de la faute, c'est pour faire teshuva, pour arriver à la joie.
C'est faire le tikkun.
Parce qu'une personne qui est joyeuse sans faire teshuva, ça veut dire qu'il n'est pas conscient de sa avérot. C'est pas bon non plus. Vous voyez le problème. Une personne qui est là, qui est joyeux, il est baba cool. Comme si il s'est rien passé. Il dit, attends, t'as fait une avéra. Faut réparer ce que tu fais. Ah, c'est pas bon. Donc il faut réaliser la gravité de ce qu'il a fait. Mais d'un autre côté après, il doit sortir de la tristesse pour être Bessimcha, que Baruch Hashem, il a réussi à récupérer, il a réussi à revenir vers Akadosh Baruch.
Est-ce que ce sera plus facile pour lui que l'exemple que tu as donné tout à l'heure?
C'est-à-dire?
Le fait que celui qui ne prend pas conscience et qui reste joyeux, même quand il est...
Mais celui-là, il est passé à côté de la plaque, celui-là. Ça s'appelle pas faire des chouvas, ça. Celui qui dit j'ai rien fait, il continue. Il y a des gens qui sont comme ça aussi. Il y en a qui ignorent tout. Et à un moment, moi j'ai rien fait. C'est la même chose. Il est toujours souriant, il a rien fait. Et il est bien, il a rien fait.
S'il n'est pas conscient.
Hein?
Oui,
il n'est pas conscient. Il ne veut pas être conscient.
Bon, alors, peu importe, au final, il n'est pas conscient.
Tu ne peux pas venir avec un sourire comme ça, Rosh Hashanah Kippour, comme si de rien n'était. Le gars, il a fait les 400 coups toute l'année, et il arrive à Rosh Hashanah Kippour comme une fraîcheur. Où on se croit, là? C'est quoi ça? C'est la jungle ici? On ne peut pas venir comme ça. Il faut réaliser ce qu'on a fait. Il faut.
Les 400 coups, il va venir avec le sourire.
Mais justement, on ne peut pas venir avec le sourire. Le sourire comme si, tu vois, on est bien, on est tranquille, il n'y a pas de problème. On est bien, on est là. C'est pas bon, c'est pas comme ça, on peut pas venir comme ça. On doit venir avec la tristesse. Mais c'est une tristesse qui n'est pas un but en soi. C'est une tristesse qui doit amener à la joie.
Non, mais Rosh Hashanah, il a déjà fait Tchouva avant.
J'espère pour lui.
Voilà.
J'espère pour lui. Très bien.
Non.
J'espère. Alors. Donc vous avez compris comment on essaie de jongler entre les deux? C'est-à-dire, d'un côté, je dois réaliser ce que j'ai fait. D'un autre côté, je dois passer par la tristesse, mais d'un autre côté, je veux tirer la tristesse vers la joie.
Ça, c'est une étape.
Okay. Et ça, ce que je vous dis, il n'y a même pas besoin de dire ça par rapport à la teshuvah. C'est même par rapport quand vous avez une galère dans la vie. Vous avez une galère avec votre femme, avec vos enfants, avec le boulot, avec ce que vous voulez. Tu vois, celui qui est baba cool. Hein, David, on le connaît, le baba cool. Il est baba cool, il n'y a pas de problème. Tout va bien, tout est sous contrôle. Il n'y a pas de problème.
Il s'en fout de tout.
Il s'en fout. Tu vois, lui, il s'en fout. Ça, c'est pas bon, ça. Il y a un problème, il faut le régler. C'est la catastrophe à la maison, c'est la catastrophe à l'école, c'est la catastrophe au boulot, et lui, il est là avec le sourire. Quel sourire? Où le sourire?
Bon, c'est le mec qui est dans le déni, alors. C'est pas la
même. Il est dans le déni, voilà. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Donc, il faut réaliser.
Il y a des gens qui veulent pas montrer aux autres qui sont...
Non, je parle pas des autres, je parle de soi, en soi. Je parle en soi. Donc, tu as celui qui est dans le déni. Ça, c'est pas bon. Vivre dans le déni, c'est pas bon. Tu as ceux qui vont voir noir partout et qui vont rester comme ça.
Non, ça, c'est pas
bon. C'est pas bon non plus. Donc il faut voir noir, certes. Quand il y a un noir, il faut voir noir. Mais il faut voir ça en tant que problème à régler. Et automatiquement, quand tu arrives à régler le problème, ou quand tu sens que tu es en direction pour régler le problème, ça t'amène une simra. Et ça, c'est le but. Et là, la simra, quand tu as réglé un problème, c'est une simra. La Gemara dit comme ça, elle dit « En simra ke atarat asfekos ». Il n'y a pas de plus grande joie qu'une joie quand on a résolu un doute.
T'as compris pourquoi je suis joyeux ce soir ?
Ça veut dire quand on a un problème et qu'on est passé au-delà du problème, la Gemara a dit il n'y a pas de joie aussi grande que ça. On en avait parlé récemment. Je pense que toute personne qui est passée par là, qui était confrontée à une question qui peut durer plusieurs semaines ou plusieurs mois, et qu'on arrive à trouver une solution, on a une cifra extraordinaire. Une cifra extraordinaire. Bon. Veiné. Rabotaï, on y va. Veiné. Là, je vous avais dit la semaine dernière qu'on avait parlé maintenant de la sortie d'Égypte. Veiné, Bechinazo. Donc je suis maintenant au milieu de la page 76. Veiné, Bechinazo, ce niveau. Qu'on explique que l'âme divine sort de son exil. Elle sort de son exil. Hi, prinat itiat mitzraim. Ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle la sortie d'Égypte. C'est une mini sortie d'Égypte. Chaque fois que j'ai réussi à faire sortir mon âme divine de l'exil dans lequel elle se trouve, bien que, au bout du compte, elle reste toujours en exil, parce que le corps est toujours là, mais même si j'arrive pendant quelques heures à la faire sortir pour Baruch Hashem réussir à faire des mitzvot, faire comme s'il n'y avait pas le corps, c'est ce qu'on appelle Yetziat Mitzrayim, sortir de l'Égypte. Et là, vous allez voir, on va faire un parallèle extraordinaire, magnifique, avec la sortie d'Égypte.
Parce qu'on a changé d'état.
Et là, il va faire un parallèle magnifique. Regardez. Shene Marba Kivarach Am. Dans la parasha la semaine dernière, on raconte que le peuple s'est enfui. Pourquoi ils sont enfuis? Ils sont enfuis parce que vous connaissez l'histoire. Depuis la parasha Shemot, Moshe Rabbeinu, il est venu demander à Pharaon. Il lui a dit, je demande l'autorisation pour partir avec mon peuple 3 jours. 3 jours. Pourquoi 3 jours? 3 jours pour aller servir notre Dieu dans le désert. Parce que comme on va servir l'agneau, et que l'agneau est l'idole des Égyptiens, on ne va pas le faire devant eux, donc on veut le faire dans le désert. Officiellement, il a demandé des vacances de 3 jours. Pharaon a refusé. Il a dit, vous voulez des vacances, je vais rejeter le travail. Mais à la base, on a demandé 3 jours. Ok? On est parti. Et nous, bien sûr, on est parti, pas pour revenir. On a emprunté les habits et l'argent à tout le monde, en leur disant, on va aller servir notre Dieu, on vous les ramène. D'accord? Bah, attends, j'y arrive, justement. D'accord? On est parti. Et pourquoi eux, ils nous ont pillé, c'est pas du vol?
Oui, bah, ah,
d'accord.
Non,
j'ai compris, tu as raison. Donc ça veut dire que même ça, Pharaon ne voulait pas. Même ça, Pharaon ne voulait pas. Et donc on est parti. Et 3 jours plus tard, d'accord, donc il faut 3 jours. Ensuite, Pharaon, il a envoyé des émissaires pour venir avec nous, des espions, pour voir est-ce qu'effectivement, au bout de 3 jours, on revient, quoi, est-ce qu'on est en train de revenir? Et il voit qu'on revient pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, les chargés de mission sont revenus rapidement, ils sont revenus, et c'est là que Pharaon nous rejoint. 7 jours plus tard, hein, parce que le temps que les Bnei Israël avancent 3 jours, le temps que les autres reviennent, et que Pharaon revient, ça fait 7 jours en tout, parce que Pharaon ne vient pas avec des femmes et des enfants, il vient avec la cavalerie, donc ça va plus vite. Donc il arrive 7 jours plus tard. Et c'est là, 7 jours plus tard, que Pharaon, pourquoi il revient? Il a dit qu'il les laisse partir. Parce que pour lui, il les a laissés partir 3 jours. Il les a pas laissés partir tout le temps. Ça veut dire qu'on s'est enfui comme des voleurs. Maintenant, il y a une question. Pharaon, honnêtement, au point où il était, à la fin, la 10e plaie, quand Akadosh Baruch Hu lui a envoyé la 10e plaie, bah, c'est fini, c'est bon, c'est-à-dire on aurait pu lui dire, écoute, on part, il dit, allez-y, partez. Prends de lui raconter, il dit, tu sais, on va partir 3 jours et on s'enfuit comme des voleurs. Prends, on pouvait pas dire directement, on part. C'est fini, ça y est, on a donné, ça fait 210 ans qu'on est là, on donne, on part. Pourquoi on a eu besoin de s'enfuir? C'est la question qui est posée ici.
Pourquoi il a menti?
De prétexter 3 jours.
Non, sans parler du mensonge, ça le mensonge, c'est une autre question. Quand vous êtes en esclavage contre votre gré, quand vous avez un ravisseur qui vous prend et que vous avez une possibilité de lui mentir pour sortir, vous pouvez mentir sans scrupule.
À la limite, il a fait ce que Dieu lui a demandé, Pharaon.
Non, Dieu lui a rien demandé.
Si, puisqu'il avait dit que va être le peuple.
Pharaon, Dieu lui a rien demandé. Dieu, il avait prévu son coup, mais Pharaon, Dieu lui a rien demandé. Pharaon, il nous a pris en esclave, on lui a rien demandé, Pharaon.
Et il avait dit avant que.
Non, mais Monsieur Benita, Dieu, Pharaon ne lui a rien dit. Donc, quand tu es chez un ravisseur, il faut sortir. Dieu n'a rien dit à Pharaon. Il lui a jamais parlé à Pharaon.
Il a rendu à tout son cœur.
Pharaon ne croyait pas en Dieu.
Non, il a parlé à Abraham ou à Moïse.
Mais Pharaon, il n'a jamais parlé à Pharaon.
Non, Dieu.
Pharaon, il avait de la main d'œuvre gratuite, il l'a prise. Excusez-moi, on ne peut pas retourner.
Dieu a parlé à Abraham ou à Moshe, il lui a dit, vous allez être esclave
Mitzraïm. Mais il n'a pas dit pour autant que ce que Pharaon a fait, il avait le droit de le faire.
Voilà, mais enfin, donc alors à la limite, Pharaon, il a accompli ce que Dieu a voulu.
Pas du tout. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui l'aurait fait. Pharaon, ce qu'il a fait, il a fait de son plein gré. C'est évident. Pharaon, il a asservi un peuple. Il a asservi un peuple entier qui était libre, il les a asservis. Donc c'est de l'esclavage. Donc s'ils peuvent sortir, ils doivent sortir. Maintenant, on peut sortir. Alors au début, je comprends que tu mets ton histoire de 3 jours, d'accord. Et après, au bout du compte, il faut lui dire, ça y est, écoute, on s'en va, on revient pas.
Vous êtes en train de me dire que, vous êtes en train de me dire que la 10e plaie, à la fin de la 10e plaie, quand il perd son fils, son premier-né, il laisse partir le peuple juif, mais il le laisse partir pour 3 jours.
Non, parce que c'était le contrat initial. C'était le contrat initial. Dès le départ, Moïse n'arrête pas de dire, on part 3 jours, on part 3 jours, on part 3 jours.
Azma, pourquoi?
D'accord. 3 jours, donc, très bien, mais concrètement, on a demandé 3 jours. Donc c'est la question. D'accord? C'est la question qu'il pose. Délire, ora utamua. A priori, c'est étonnant. C'est notre question. Lama ita kazot. Pourquoi on devait sortir d'Égypte? En fuite. Vechi ilu amrou le pharo. Et si on avait dit à pharo, pas seulement de nous laisser partir 3 jours. Et là, d'accord? Les sholcham profshi le olam. Si on avait demandé à pharaon de nous laisser partir.
Pour toujours.
Lo haya mukhach le sholcham. Est-ce que pharo n'aurait pas été obligé de nous laisser partir? Ça veut dire comme ça. Pharo voulait pas nous laisser partir même pour 3 jours.
Même pour une heure.
D'accord? Et après, il a reçu 10 plaies. Et là, maintenant, quand il a reçu 10 plaies, on pouvait lui demander ce qu'on voulait, il nous aurait laissé partir. Alors, pourquoi on devait s'enfuir? Et là, il donne un chidouche extraordinaire. Il dit, c'est pas à cause de Pharo qu'on devait s'enfuir. C'est à cause de nous. C'est à cause de nous. Qu'est-ce que ça veut dire quoi?
On peut regretter.
Attendez?
Non, c'est ça.
Et là seulement. Vous avez la suite? Et là seulement. Et là.
Et là, et là.
C'est où
la première ligne de la page.
77.
Vous n'êtes pas à la bonne page.
60, combien
77.
Oh, mais comment vous avez fait pour passer de 67 à 77?
Bah, je sais pas. Comment vous êtes arrivé à 67?
On a commencé par 67, non?
76.
Ah, à l'envers. Les frontières 67, elles sont dépassées depuis longtemps. Hein.
Voilà. Bah, 31, c'est toujours chapitre 31.
Alors, et là seulement. Mipné, le problème n'est pas chez les Égyptiens. Les Égyptiens, au bout du compte, ils auraient pu nous laisser partir sans problème pour tout le temps. Ils nous suppliaient de partir. Allez-y, vous-en. D'accord? Et là seulement, le problème n'était pas du côté de Pharaon, il était du côté des Bnei Israël. Les Bnei Israël, intérieurement, dans leur fort intérieur, ils n'étaient pas prêts à sortir d'Égypte. Ils n'étaient pas prêts à quitter le mal, ils n'étaient pas prêts à quitter l'Égypte. Mipné ara. Chez Benefashot, Israël, Adain, Ayab et Tokfo, Bechalal Asmali. Le mal qu'il y avait chez les Bnei Israël dans leur côté gauche, rappelez-vous, c'est l'âme animale, il était aussi puissant. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont fait la Brit Mila, c'est vrai qu'ils ont fait l'agneau pascal, mais le Yitzhara, il était toujours très très fort. Si on va commencer à être là, à dire, bon, maintenant on va repartir, etc., c'est dangereux. Ainsi que dit la Gemara dans le traité Shabbat, Kilo Pascha Zuhamatam Admatan Torah. Vous savez que les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont véhiculé avec eux une saleté. Une saleté. Et cette saleté, ils l'ont gardée jusqu'à quand? Jusqu'à Matan Torah.
Quand on dit ça, c'est pas Azohama Shel Nachash de...
Non. Originelle. Oui, mais ça veut dire déjà, il y a l'Azohama du Nachash, il y a l'Azohama de Mitzrayim. La saleté de l'Égypte, elle les a pas quittés jusqu'à Matan Torah. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 49 jours qu'il y avait entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah? Alors, vous savez que, ils étaient, on a dit, aux 49 portes de l'impureté.
Donc, ils ont récupéré chaque niveau d'impureté.
Alors, c'est très simple. En fait, ils étaient aux 49 portes de l'impureté. Ils étaient aux 49 portes de l'impureté. Et il y a un principe très simple. C'est qu'une fois qu'on a atteint la 50e porte de l'impureté, c'est terminé.
C'est quoi veut dire quoi,
50? Il y a 50 portes. 50 niveaux. 50 portes de la sagesse, 50 portes de l'impureté. D'accord?
Comment mesurer? Où c'est qu'on est?
Ceux qui le savent peuvent mesurer. Donc. Celui qui, je vous rassure, vous n'y êtes pas au 50e.
Non, je suis au 49.
Il me manque.
J'avais d'avis, vous êtes marocain. Vous
avez... Alors, donc, si les Bnei Israël, s'ils restaient ne serait-ce qu'un seul instant en Égypte, ils seraient rentrés dans la 50e porte de l'impureté, et là, on ne peut plus sortir. C'est le point de non-retour. Qu'est-ce qu'ils font pendant 49 jours? Tous les jours, en parallèle, ils quittent une porte de l'impureté et ils récupèrent une porte de l'impureté. Parce que ça va en parallèle. C'est-à-dire, c'est pas qu'il faut 49 jours pour quitter les portes de la pureté, et après encore 50 jours, 49 jours pour atteindre les portes de la pureté. Non. C'est en parallèle, quand tu quittes une porte de la pureté, tac, tu montes. D'accord? Ils prennent une porte de la pureté. Et comme ça, ils montent.
C'est mieux que le découvert.
C'est binaire. D'accord? C'est binaire. Et pas stable. C'est ou ça, ou ça. Et donc, c'est binaire. Et qu'est-ce qui se passe? Ils montent. Et là, on compte le Homer pendant combien de temps?
49.
Mais d'un autre côté, la Torah dit 50. Une fois la Torah, nous on compte 49 jours, mais la Torah dit Tisperu Chameshim, vous compterez 50 jours. Comment ça marche? C'est qu'on dit, le 50e jour c'est Shavuot. Le 50e jour, c'est pas nous qui le comptons, c'est Dieu qui le compte. De la même manière que la 50e porte de l'impureté, c'est le point de non-retour, c'est-à-dire c'est un point que l'homme peut pas toucher, s'il touche c'est trop tard. De la même manière, la 50e porte de la Kedusha, c'est une porte que l'homme peut pas toucher. Je peux pas, même le plus grand tzaddik peut pas atteindre la 50e porte. C'est pour ça on dit, c'est quoi la maladie des tzaddikim? Parce que cholé en hébreu, c'est la valeur numérique de 49. C'est quoi la maladie d'un tzaddik? La maladie d'un tzaddik, c'est qu'il est à 49e porte de la Kedusha et que Dieu ne l'a pas encore appelé à la 50e.
Il peut pas l'appeler alors à la
50e. À la 50e, c'est Dieu qui t'appelle, c'est Dieu qui te prend. Tant qu'il t'a pas pris, c'est ça leur maladie. La soif, c'est qu'il est là, il est bloqué, mais il peut pas passer.
Donc la 50e, quoi qu'il arrive, elle appartient pas à ce monde.
Exactement. La 50e, dans le mal comme dans le bien, c'est hors concours. 50e, c'est...
Elle appartient pas à ce monde.
Non.
Alors ça veut dire...
On peut accéder, mais on peut accéder si Dieu nous attire. Comme par exemple à Shavuot. Shavuot, Dieu nous attire à la 50e porte.
Dans le mal, pareil. Elle n'existe pas dans le monde.
Si, elle existe. Ah si, on peut y atteindre.
Mais il y a un truc que je comprends pas. Vous avez fait Mila.
Allez. Non. La Kedusha. Ça veut dire, si vous voulez, c'est un point de non-retour. C'est un point qui est au-delà de la logique. Une fois qu'on atteint ce point, on ne peut plus revenir.
Ils avaient fait la Mila et Neopaska, donc ils étaient au moins à la 41e porte. Ils avaient récupéré au moins deux portes.
Non, ça, ils ont fait ça pour sortir, mais ils étaient toujours. Il y avait la saleté qui était toujours là.
Donc, en fait, de faire des mitzvot n'enlève pas la saleté.
Ils avaient une saleté profonde. C'est-à-dire que ça veut dire qu'ils avaient un exil profond.
Donc, faire des mitzvot n'enlève pas.
Ça n'a rien à voir. Faire les mitzvot, ça dépend quelle mitzvot. Là, ce qui explique ici la Mourazaken, c'est qu'en eux, ils étaient en exil. Ils étaient dans leur exil encore. C'est ça le problème.
Une question, comment comprendre que, après l'esclavage qu'ils ont eu, et les souffrances qu'ils ont eues, ils auraient voulu rester en exil?
Est-ce qu'ils y ont vécu suffisamment de temps?
C'est pas vouloir. La question, la question est la suivante. En vérité, peut-être, ils auraient dit comme ça. Ils auraient dit, d'abord, il y a deux points qu'il faut savoir.
C'est comme les prisonniers.
Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que eux, non, sans même passer par le centre de Stockholm, eux, ils se sont habitués au vivre, à la façon de vivre à l'égyptienne. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est être libre et vivre comme un égyptien.
C'est le plaisir du monde.
D'accord? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il faut savoir que la dernière année d'esclavage, c'était une année dans laquelle les travaux forcés s'étaient arrêtés. Depuis le Rosh Hashanah de l'année où on est parti, donc pendant plusieurs mois, l'esclavage était déjà arrêté. Ça veut dire qu'ils vivaient à peu près comme les Égyptiens, mis à part le fait qu'ils ne pouvaient pas quitter le territoire, mais ils vivaient à peu près comme les Égyptiens. Donc ils ont goûté à la vie à l'égyptienne. Et ils vivaient comme des Égyptiens. À part le fait qu'ils avaient les noms juifs, donc le nom, d'accord, le prénom juif, qu'ils avaient le vêtement juif et la langue hébraïque, à part ça, ils vivaient comme des Égyptiens. Donc dans leur tête, ils ne sont pas sortis de l'exil. Ils étaient en exil.
Après le dernier Rosh Hashanah, avant la libération...
L'esclavage était arrêté.
Donc ils n'étaient plus dans les briques, ils n'étaient plus dans la boue.
Non, parce qu'on était déjà, à la moitié des plaies, et là, ils avaient déjà... Voilà.
D'accord.
Donc les Bnei Israël ne voulaient pas sortir. Et alors, puisque les Bnei Israël ne voulaient pas sortir, alors en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Il pouvait pas demander à Paro de partir pour tout le temps. Parce que même les Bnei Israël, il est fort possible que pas tout le monde savait qu'il partait pour la vie. C'est très sérieux ce que je vous dis.
Pour la vie ou...
Parce que si on va dire à tout le monde, on part et on revient pas.
Pas sûr.
Il y a peut-être certains qui auraient dit, bon, dans ce cas-là, on va réfléchir, on va voir. Si on... Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a 80% qui sont restés. C'est des rachis du début de la parachat de cette semaine.
Oui.
Qui voulaient pas sortir. Donc sur les 20%, mais c'est-à-dire qu'ils sont restés donc. Donc sur les 20% qui sont sortis, c'est des gens qu'on leur a dit, bon, ils ont dit, bon, on verra ce qui se passera, on va aller, après on reviendra, etc. C'est pour ça que c'était un peu flou. On n'a pas dit, on y va, on part. On n'a pas dit. C'était flou. Et après, progressivement, je leur dis, ah, vous savez, on va pas revenir en vérité, hein. Progressivement, ils leur annoncent. Et ils avancent, et ils leur disent, ah, mais attendez, on va recevoir la Torah. Et là, une fois qu'ils étaient sortis de l'Égypte, c'est là qu'ils disent, ah, mais la vérité, on n'avait rien à faire ici. Mais il fallait sortir, il fallait s'enfuir. Il fallait quitter cet endroit le plus tôt possible. Ce qu'il dit ici. Rak, cependant. Magamatam vechavtam, on parle d'avancer dans la Torah ici. Magamatam vechavtam aita, latset minavsham aelokit migalut asitra harak tuvot mitzrayim utefkavoit barech. En fait, le but de la sortie d'Égypte, c'était quoi? Le but, c'était de quitter, que l'âme divine quitte l'exil du mal, l'impureté de l'Égypte, et qu'elle puisse s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est exactement ce qui se passe en nous, en vérité. Maintenant, on comprend pourquoi on nous dit que chacun de nous, tous les jours, on vit une situation qui ressemble à l'Égypte et qui ressemble à la sortie d'Égypte. On comprend parfaitement. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Tu avais des gens qui étaient en exil et qu'à un moment on leur dit, écoute, arrête de réfléchir, il faut que tu sortes. Viens, on sort pour un jour, pour deux jours, il faut que tu sortes. Et ils sont sortis, et après ils ont attrapé Baruch HaShem, ils ont pu sortir. Ils ont pu sortir pour la vie. C'est la même chose. Quand j'ai ma neshama, elle est bloquée avec mon corps. Si maintenant je veux commencer à parler avec mon corps, je dis, écoute, tu sais, dorénavant, je veux devenir un tzaddik, je veux tout arrêter, je veux quitter l'Égypte à vie, etc. Ouais, elle va me dire, attends, oulala, c'est pas tranquille, moi, j'ai mon confort, je suis bien ici, je suis bien à Paris, ma petite maison, mon petit confort. Qu'est-ce que tu me prends la tête avec tes histoires, maintenant, je suis pas tranquille. Mais si tu vas lui dire, écoute, tu restes Mendy Assouline, tu restes celui que tu es. Juste te demande de venir une heure à un cours de Torah. On va pour trois jours. On va faire un saut, après tu reviens à la maison, tu auras les séries, la télé, tout ce que tu veux. Voilà, tu fais une pause d'une heure. Pendant une heure, tu oublies l'âme animale, tu vas t'occuper de ton âme divine. Elle va dire, bon, d'accord, ça va. Maintenant, ce qui sait pas, c'est quand il va venir un cours de Tania. Le cours de Tania va l'attraper. Et une fois que le cours il l'a attrapé, après on sort d'Égypte.
Oui. Il va être piégé.
Mais déjà
l'âme divine avant matin de Torah.
Bien sûr.
Toujours. Quand est-ce qu'elle est arrivée?
L'âme divine, à l'époque, pour être juif, il fallait être monothéiste, c'est tout. Là, la saleté qu'on parle, c'est la saleté de l'avodah zara. Donc, ce qu'il dit ici.
Tu veux dire que avant de sortir d'Égypte, les juifs, ils faisaient l'avodah zara?
Bien sûr. Tout le monde fait l'avodah zara.
Et même après?
Même après. C'est l'avodah zara.
Devant un truc en bois ou en pierre?
Oui, bien sûr. Bah, tu vois, les astres, ce que tu veux, déjà. Bien sûr. On était tous idolâtres. C'est de ça qu'on a parlé Shabbat aussi. Hein, à la louve d'Avodah Zara. À la louve d'Avodah Zara, les deux étaient idolâtres. C'est pour ça que la Midat Hadin, la tribu de la rigueur, est venue se plaindre devant Kadosh Baruch Hu. Elle a dit, mais pourquoi ceux-là tu les sauves et ceux-là tu les punis? Quelle est la différence? Parce qu'il n'y a pas de logique. C'est au-delà de la logique. C'est pas normal. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Ça veut dire que, ce qu'on veut montrer ici, c'est que tous les jours, on vit un petit peu une idée de la sortie d'Égypte. C'est la raison pour laquelle il est écrit Bechol dor vador chayav adam lirot et tatsmo keilu uyatsa mimitzrayim. Dans chaque génération et dans chaque jour, selon une version de la Gemara, un homme doit s'imaginer comme si il sort d'Égypte. C'est ça, sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, ça veut dire sortir de l'exil dans lequel je me trouve. Ça veut dire donner un peu de répit à l'Eneshama pour que l'Eneshama quitte un petit peu l'Égypte qui est le corps dans lequel elle se trouve. Alors maintenant, j'ai une question intéressante. Quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils étaient contents. C'était Bessimra. D'accord? Maintenant, est-ce qu'ils étaient entièrement sortis? Pas du tout, ils n'étaient pas entièrement sortis parce que dans leur tête, ils n'étaient pas sortis. Et pourtant, ils sont quand même Bessimra. Pourquoi ils sont Bessimra? Parce qu'au moins, on a quitté. Après maintenant, est-ce qu'on a quitté pour trois jours, pour une semaine, pour un an? Je ne sais pas, mais on a quitté déjà. Donc ça veut dire que quand on a quitté un problème, même si on l'a quitté temporairement, on est déjà Bessimra. Et c'est la même chose, la Demora Zaknadi, par rapport au Benoni. Quand t'as une personne qui baigne dans l'Avérote, comme nous tous, d'accord? Quand tu baignes dans une Avéra, tu baignes dans l'Avérote. Et qu'à un moment, t'as réussi à sortir un peu la tête. Pour un jour, deux jours, trois jours, une semaine. Et ça va, tu commences à être content. Et ça va dire, mais attends, qu'est-ce que t'es content? C'est très bien que tu vas retomber. C'est pas grave. Pourquoi les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient pas contents? Ils auraient pu revenir. Il y en a même qui croyaient qu'elle allait revenir, mais c'est pas grave. Parce que le peu de temps qu'on est sorti, t'es déjà content. De la même manière, si j'ai réussi à faire en sorte que ma neshama, pendant quelques jours, quelques heures, quelques minutes, quelques secondes, j'ai réussi à faire en sorte qu'elle est sortie de l'exil de mon corps, je dois être content, je dois être Bessimra. Même si ça va retomber, c'est pas grave. Ce que j'ai pu gagner. C'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça qu'il insiste beaucoup là de Morazaken pour dire que même si on a réussi à avoir quelques temps de répit de son Yetzarara, il faut être Bessimra de ça. Il faut être Bessimra. Alors, de la même manière, maintenant, de la même manière que la sortie d'Égypte devait être Bechipazon. Bechipazon, ça veut dire en vitesse. D'ailleurs, vous savez, c'est la raison pour laquelle on mange de la matzah. Pourquoi on mange de la matzah? On mange de la matzah parce que le pain n'a pas eu le temps de monter. Pourquoi il n'a pas eu le temps de monter? Parce que Moïse, directement, il leur a dit, on s'en va! On n'avait pas le temps. Il fallait tout de suite partir. Alors, de la même manière que nous on est comme ça, et bien, de la même manière, quand on veut quitter une Avera, faut pas commencer à réfléchir avec l'Avera, de dire, attends, je vais réfléchir, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Laisse tomber, quitte.
On a quitté Bibi Hilo.
Tout de suite. Bibi Hilo. Hein? Tout de suite. On discute pas. Après, on verra. Déjà, sors de l'endroit. Sors de la bêtise. Dis, non, mais attends, je vais réfléchir, peut-être qu'en vérité, y a pas. Sors, dégage. Sors. Tout de suite, il faut partir. C'est ce qu'il dit ici. Alors maintenant, on va. C'est exactement, exactement. Ça veut dire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent à quel moment je claque la porte quand j'ai réglé le problème. Là, je peux dire je m'enfuis. La demoiselle Catelli, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur de dire je claque la porte, j'arrête avec le problème quand j'ai réglé le problème. Tu dis pas du tout. Il faut se sauver du problème. Il faut partir. C'est un moment où tu as une tristesse. Il faut partir. Tout de suite, il faut partir. Il faut se sauver. Be'ofen shel bricha. Bricha, il faut s'enfuir. Et il amène une preuve. Il y a un pasouk dans Jérémie qui dit comme ça. Regardez le pasouk. Il dit, ou que dire-t-il, ainsi qu'il est écrit, Hachem, Ruzi ou Maouzi. Dieu est ma force et ma puissance. Donc, Maouzi, c'est même dans le sens la puissance comme la forteresse. Ou Menoussi, Beyam Tsara. Et c'est celui qui me permet de me sauver le jour d'un malheur. Ça veut dire qu'il y a une situation dans laquelle on doit se sauver d'un problème. Très intéressant ça, parce que rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. Vivre dans le déni, c'est pas bon. Mais alors, celui qui vit dans le déni, c'est ça, c'est qu'il se sauve du problème. Al-Morazaken te dit, attention, il faut pas vivre dans le déni. Il faut être conscient du problème. Mais à un moment, il faut se sauver du problème. C'est une fois que tu es conscient du problème et que bon, tu veux le régler, il faut se sauver, il faut partir. Il faut, comme il dit ici, ou menoussi. Menoussi, ça veut dire partir en courant. Partir en courant du problème.
C'est prendre du recul.
C'est prendre du recul, même à se sauver du problème. Misgavi ou manoussi vegomer. Il y a même d'autres preuves, d'autres psukim. Vehu manosli. D'accord? Vehu manosli. Alors, vehu manosli, a priori, c'est dans le Adon Olam. Vehu nisi ou manosli. Il y a un jeu de mots. Vehu nisi ou manosli. Dieu est mon miracle. Umanosli est celui qui me permet de me sauver. Parce que le mot nes en hébreu veut dire le miracle et veut dire aussi se sauver.
Le bâton
aussi. Mais là, ça veut dire Vehu nisi ou manosli. Dieu est mon miracle. Je connais Adon Olam. Vehu nisi ou manosli. Menat kosi. Il y a beaucoup de jeux de mots là-bas. Énormément. C'est un jour, c'est, si on ferait l'Adon Olam, c'est écrit au nom du Arizal. Et on tient ça, si mes souvenirs sont bons, de Ravaï Gaon. Que celui qui dit Adon Olam avec toute sa kavana, avec la traduction, à Rosh Hashanah à Yom Kippour, il lui assure qu'il n'arrivera aucun mal toute l'année.
Ah bon?
Ouais.
Tu peux nous rappeler ça?
Et tous les jours, non, c'est, oui, c'est...
Adon Olam.
En semaine, c'est bien dit.
Ça s'écrit.
C'est à lui dire chaque matin.
Ah. Mais avec la kavana, il faut le comprendre, non, pas le chanter.
Bien sûr, bien sûr. Ah, avec la kavana. Non, mais juste un rappel, ce serait bien.
Alors.
Il y a un cours sur Adon Olam.
Eh ben voilà, il faudra qu'on fasse dans le cours de Shabbat, là, dans les cours de la Tfila, il faudra qu'on fasse un cours sur Adon Olam. Ah, je vais leur dire ça, là, ils vont tous.
Il va y avoir du monde. Ouais.
Alors, Vehu Manosli, donc Vehu Manosli Vegomer. Donc c'est Vehu Nisi ou Manosli. Que Akadosh Baruch Hu me permet de me sauver. Donc vous voyez, encore une fois, on voit que même si on n'a pas, même si le problème n'a pas été réglé à 100%, comme l'Égypte, à un moment, il faut se sauver. C'est-à-dire, si on devait attendre de convaincre chaque juif qu'il allait quitter l'Égypte, on n'aurait jamais quitté l'Égypte. À un moment, quand il te dit, bon, écoute, je vais même partir pour essayer, prends-le et dégage. Faut partir. Faut pas réfléchir. Maintenant, l'Admor Hazaken ici a amené trois psukim pour parler de la fuite. Et c'est pas par hasard. Le Rabbi explique sur ça, hein, avec un commentaire de son père, Rabbi Levi Yitzhak, qui dit que, là je vous donne un petit commentaire intéressant, il dit que l'Admor Hazaken est très précis dans le Tanya. Et si tu amènes trois versets pour dire la même chose, c'est qu'en vérité, c'est quelque chose qui est triple. En vérité, le mal de l'Égypte est un mal qui est triple. Pourquoi? D'abord parce que, rappelez-vous, on avait étudié dans le chapitre précédent, que le mal est composé de shalosh klipot atmiot. Il y a trois klipot qui sont impures, premièrement.
Trois quoi?
Trois klipot, trois forces du mal. Mais je vais aller plus loin. Dans l'impureté de l'Égypte, quand on lit dans la Torah, on voit que Paro avait trois princes. Il avait Sarah Tabachim, Sarah Mashkim, Sarah Ophim. Traduction. Sarah Tabachim, le maître des cuisines. Sarah Mashkim, le maître des chansons, d'accord? Et Sarah Ophim, le maître panotier. Il avait trois sars, trois princes. Et de ces trois princes, il faut se sauver. Alors il dit comme ça. Il dit, ces trois princes correspondent à trois choses différentes.
Le pain, le vin.
On va commencer par le pain.
Le pain.
Où on cuit le pain?
Dans le four.
Le four, c'est un endroit qui est très chaud. Donc le four correspond à quoi? Le four correspond à la rigueur. Il correspond à la rigueur. La rigueur de Paro. Ça veut dire le feu de Paro. Et ça, il faut se sauver de lui, il faut se sauver, c'est le premier celui-là. Celui-là, il faut se sauver grave. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est qui? C'est Sarah Tabachim. C'est le maître des cuisines. Alors celui-là, le maître des cuisines, il dit là-bas le rabbi, il dit, c'est quoi le maître des cuisines? Il dit, dans une cuisine, tu as du feu et tu as de l'eau. Vous confirmez? Tu as les deux. Donc le maître des cuisines, c'est celui qui s'est marié entre la bonté et la rigueur. La bonté et la rigueur du mal. Enfin, Sarah Mashkim, le maître des chansons, qu'est-ce qu'il sert? Il sert des liquides, donc c'est de l'eau. Et l'eau, ça représente quoi dans la Torah? L'eau, ça représente le chesed. Parce que le feu va du haut vers le bas, du bas vers le haut, alors que l'eau va du haut vers le bas. Donc le feu est égal à la rigueur, donc ça part de moi, l'eau est égale à la bonté. Et donc le maître échanson est égal à la bonté, le maître panetier est égal à la rigueur, parce que c'est le feu qui monte vers le haut, et le maître des cuisines, c'est pas dans une cuisine, il y a les deux, celui qui manie les deux. Donc ça veut dire qu'on voit que par haut, il est composé de trois choses. Il y a trois princes, ça veut dire qu'il est composé de trois choses. Il y a la bonté du mal, il y a la rigueur du mal, il y a l'harmonie du mal. Il faut se sauver de tout ça.
Donc il est parfait. Maintenant, dans le mal, alors.
Bien sûr qu'il est pas, Paro, c'est la perfection du mal. Maintenant, j'ai pas fini. Il dit comme ça. Il dit que, alors le...
C'est pire que ça, c'est le dieu du mal.
Oui.
Après, tu alors. Puisqu'il sait aussi bien manier le haut que le bas.
Il sait manier ce que tu veux. Il va dans le haut, dans le mal, partout où tu veux. Il continue. Il dit comme ça. Il dit maintenant, quand on va se sauver du mal, comment on va se sauver du mal? On va se sauver du mal avec les trois vêtements de l'âme, qui sont la pensée, la parole et l'action. Donc on a retrouvé encore le chiffre 3, qui correspondent aux trois olamot, Beria, Yetzira, Asiya. D'accord? Donc il explique comment tout correspond parfaitement. Alors après il rentre dans les détails, hein, je ne peux pas trop rentrer dans les détails maintenant, mais il explique, c'est la raison pour laquelle dans les trois psukim que la Gemara Zaken a amené, dans le premier pasouk, il insiste, il dit « Hachem, c'est ma force, c'est ma puissance, et qui me permet de me sauver. » C'est-à-dire, celui-là, il faut se sauver grave. Dans le deuxième, il dit « Mis Gabi ou Menoussi, c'est mon support et celui qui permet de me sauver. » Et le troisième, c'est « Il me permet de me sauver. » Ça veut dire que le premier, c'est le plus dur. Le deuxième, il est moyen. Le troisième, c'est le plus facile. Le plus dur, c'est le feu. Le feu du mal, c'est le pire, celui-là. Ensuite, le deuxième, c'est celui qui manie les deux. C'est le Sarah Tabachim, celui qui manie le feu et l'eau. Le troisième, celui qui manie que Sarah Mashkim, le maître et chanson, celui-là, comme il manie que la bonté, celui-là, c'est pour ça que, il faut se sauver, mais c'est le moins dangereux.
C'est pour ça qu'on le salue à chaque fois.
C'est pour ça qu'on le salue exactement. Alors, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le mal de Paro est un mal duquel il faut se sauver. Alors, au passage, il explique aussi, il dit que, bon, après, je m'arrête, hein, on va pas trop rentrer dans la Kabbalah, mais il dit, c'est la raison pour, il dit comme ça, il dit que le Sarah Ophi, donc le maître panetier qui correspond, on a dit, au feu, on a dit que c'est le maître panetier de Paro. Paro, c'est les mêmes lettres que Aoref. Aoref en hébreu, ça veut dire la nuque. Maintenant, combien de tuyaux passent par la nuque? Deux tuyaux. Il y a des tuyaux qui passent par la nuque, d'accord? Enfin, des conduits, quoi. Combien de tuyaux? Deux. Il y a un tuyau qui s'appelle le véchette, un tuyau qui s'appelle le canet. Le véchette, c'est quoi? C'est le tuyau par lequel on mange. Donc, qui est l'œsophage, d'accord? Et le canet, donc ça c'est le véchette. Et le canet, c'est la trachée artère, enfin la carotide, voilà, pour les hommes, d'accord? C'est le tuyau par lequel on respire. Et il dit comme ça. Il dit.
C'est pas la carotide.
Non, c'est le tuyau par lequel on respire. La trachée. Très bien. Alors, c'est la trachée. C'est le tuyau par lequel on respire. Alors, il dit comme ça. Il dit, le tuyau, le conduit par lequel on va manger, ça correspond au feu. Ça correspond au feu parce que ça, c'est le plus important, c'est par lui que tout passe. Alors que d'un autre côté, l'autre, celui par lequel on respire, l'air, c'est déjà plus raffiné. Ça correspond auquel? Ça correspond au maître et chanson, qui correspond au chesed, et donc c'est pour ça que celui-là, déjà, il est plus calme, il est beaucoup plus raffiné. Voilà, c'est juste pour montrer que il n'y a rien qui est laissé au hasard, et que si Paro est comparé à la nuque, puisque j'ai déjà parlé de ça, on va rajouter encore un autre point, après je vous laisse tranquille. Vous savez pourquoi Paro est comparé à la nuque? Pourquoi il compare, quel rapport avec Paro et la nuque? C'est quoi le rôle de la nuque? Le rôle de la nuque, c'est d'assurer la liaison entre la tête et le reste du corps. Celui qui a le rôle de Paro, c'est quoi? C'est de bloquer la relation qu'il y a entre la tête et le cœur. Parce qu'on a Rassilut Rabat, on vous apprend comment la tête, la réflexion, doit générer des sentiments. C'est quoi Paro? C'est celui qui te refroidit. Tu dis, bon, ça c'est bien intellectuellement, mais tu bloques là. D'accord? Mais alors, d'un autre côté, nous, les Bnei Israël, on est un peuple qui a aussi la nuque raide. D'accord? Am kshe oref. Seulement là, c'est la bonne nuque. C'est pas la mauvaise. La mauvaise nuque, celle qui te bloque. La bonne nuque, celle qui te dit, on passe quand même. Même quand ça passe pas, on passe. Et c'est pour ça qu'on dit, quand on dit qu'on a la nuque raide, dit le Harizal, c'est les ma'aliuta, c'est une qualité en vérité qu'on a. Si on a la nuque raide, c'est grâce à ça qu'on a pu tenir jusqu'à maintenant. Parce qu'on est têtu. Les juifs sont un peuple très têtu. C'est grâce à ça qu'on a pu tenir jusqu'à maintenant. Donc c'est pour montrer tout ça qu'il n'y a pas de hasard, et que de la même manière que dans le grand pharaon qu'on est sorti, c'est un pharaon qui était très très dur et qu'il fallait se sauver, il fallait s'enfuir. Hein, pour revenir à notre sujet, de la même manière, le pharaon duquel on se sauve tous nous, c'est notre âme animale. C'est notre âme animale, c'est les problèmes de la vie. Et à un moment, il faut quitter, il faut claquer la porte. Même si tu pars pour une heure, il faut partir. Ah bon, ben après on reviendra, peut-être on reviendra, tant pis, pas grave. Il faut partir, ce qu'il dit ici.
D'après le Midrash, qui dit que le roi de Ninive à l'époque de Ina, c'était Paro. Que Paro, il a fait un meilleur travail que le d'Israël, il s'est pas enfui, il s'est transformé lui-même.
Ah, c'est une grande marque, d'après, qui était Paro. D'abord, Paro, il a plusieurs noms. Et... Bon, Paro, c'est un surnom en plus.
Paro, hein. C'est comme si tu dis le roi.
Exactement.
Il y a eu plusieurs.
Oui, mais on dit non. D'après ce Midrash,
c'était le même Paro. Paro, ouais.
Le roi de Ninive à l'époque de Ina. Il a vécu des centaines d'années. Après, c'est un Midrash.
Un Midrash.
Ouais. C'est-à-dire que ce paro, il a fait le Tshuva. C'est-à-dire que c'est ce dieu du mal, entre
guillemets. On ne sait même pas si ce oui. paro lui-même. Qui avait...
Bien sûr. Il a fait le Tshuva. Bah, c'est il ça. Il a transformé. Bon, entre-temps, il a fait ce qu'il a fait.
Sans s'enfuir.
Alors, attends deux minutes. S'il s'est transformé.
Oui.
Ah, pourquoi on le laisse anonyme? On le laisse que dans cette partie-là.
Non, parce que c'est des Midrashim. Il y a pas. On peut pas comprendre le sens littéral de tout ça.
Ah, d'accord.
On sait pas ce qui est littéral et ce qui est figuré. Velachen, c'est pour cela. Rabotai. Velachen, c'est pour cela. L'Eratid, lorsque Mashiach viendra. Amen. Velachen, c'est pour cela. Léatid, c'est bon David? Léatid, j'ai pas eu les chayim, hein, je te rappelle David.
Ah oui, c'est pour la faute.
C'est une faute grave.
Non,
alors.
Non, c'est un aïs. C'est 15-0.
C'est une erreur. Hein.
Non, c'est pas propre. Donne-moi un gobelet là-bas.
Oui, Marcel, qu'est-ce que je vais faire de toi? T'es guéri.
Merci, pardon.
Aïe.
D'accord. Tu te rends compte?
Je profite qu'il y a une pause pour dire que Marcel m'a dit tout à l'heure que les caisses sont vides. Ah. Alors ceux qui veulent aider pour remplir les caisses, remplissent les caisses du cours. Voilà. Raïm. Ok. Mais la chaîne, c'est pour cela, c'est bon? Vous avez froid là?
Non,
ah, vous avez attrapé chaud sinon.
Non, Marcel, quand tu prends la raquette, tu m'appelles.
Ok. Velachen, c'est pour cela. L'Eratid, vous avez dans les mots? Allez, rabotaille. En bas de la page 77. Velachen, c'est pour cela. L'Eratid, à l'avenir, lorsque ma chère viendra. Kshiavir, Hashem, Ruachatu, Amina, Aretz. Lorsque ma chère va venir. Et que là, Hachem va enlever l'esprit d'impureté de la terre. Tiv, il est écrit dans Isaïe, Uvimnu salot elechoun. Vous ne sortirez pas en courant. De l'exil dans lequel on se trouve, on partira pas en courant. Dans quel cas on part en courant? On part en courant quand il y a un risque que si tu pars pas assez vite, tu risques de retourner. Mais quand ma chère viendra, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura plus de mal. Donc tu peux partir tranquillement, t'as pas besoin de s'enfuir. Qui olech lifnichem Hashem, parce que Dieu marche devant vous, veut gomer, etc. Alors, seulement, le rabbi dit comme ça. Il dit d'un autre côté, il y a une gemara qui dit que lorsque Mashiach va venir, lorsque Mashiach peut venir, Akadosh Baruch Hu lo igvam afilu ke eref ayin. Akadosh Baruch Hu ne nous retient pas, ne serait-ce qu'un seul instant. C'est pour ça qu'on dit vivant Mashiach, now. Mais le rabbi dit, c'est pas une contradiction. Que d'un côté, Mashiach peut arriver tout de suite, et d'un autre côté, on court pas. On s'enfuit pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il arrive tout de suite que je m'enfuis. C'est pas une contradiction. Il peut venir tout de suite, mais je m'enfuis pas. S'enfuir, c'est un état d'esprit. S'enfuir, c'est un état d'esprit. C'est que dans ma tête, je me sauve de quelque chose. Quand Mashiach va venir, on sera pas dans un état d'esprit où on s'enfuit. On sera dans un état d'esprit où, pas au Hachem, on est content qu'on ait vite rentré dans la Géoula. Mais pas que je m'enfuis de quelque chose. Parce que je m'enfuis de quelque chose que j'ai peur de revoir. Que je sais que, qui me menace. Mais lorsque ma chair viendra, le mal me menacera plus parce qu'il y aura plus de mal, il y aura plus d'impureté. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, le mal était encore là. Voilà pourquoi il fallait s'y enfuir.
Là, quand ma chère, il arrive, on tourne une page, c'est ça?
C'est pas seulement qu'on tourne une page. On n'a plus besoin de s'enfuir.
Donc, il n'y a plus de porte de... La porte de d'arrière, elle est fermée.
Elle n'existe plus.
Elle est murée.
Elle n'existe plus. Dieu, Kadosh Baruch Hu l'enlève. Et donc, c'est la même chose. C'est la raison pour laquelle. Le Rabbi nous explique que dans les derniers instants de l'exil qu'on est en train de vivre, alors le Rabbi explique que pendant ce moment-là, puisqu'on est dans la semaine de Yud Shvat, qui est la semaine où le Rabbi est devenu Rabbi, Rabbi nous explique que pendant cette dernière période de Mashiach, avant d'arriver à Mashiach, on doit marcher à la tête haute. On ne doit pas être timide. On ne doit pas être dans un état d'esprit où on est là tout le temps en train de se justifier. C'est vrai qu'en exil, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on avait toujours la tête basse. D'ailleurs, même l'image du juif en général, quand on le voit dans les tableaux,
exactement.
Pas par hasard. On a toujours le juif, l'image, les tableaux reproduisent, hein, c'est ce que les gens voyaient, ouais. Toujours recourbé, toujours discret, toujours limite il frôle les murs. Et le rabbi il dit que de nos jours c'est terminé ça. De nos jours il faut ufaratzta. Ufaratzta, yama, va kedma, vetzafona, va negba. Il faut s'étendre avec la kippa, d'accord? Yama, va kedma, vetzafona, va negba dans toutes les directions du monde. Et que ce qui était valable à l'époque, il fallait se cacher. Ça, c'était valable à l'époque. Parce qu'à l'époque, on devait s'enfuir. Mais de nos jours, comme on s'approche de Mashiach, plus on s'approche de Mashiach et moins on doit s'enfuir. Plus, il faut avoir la tête haute. Parce que lorsque Mashiach va venir, il est écrit, Uvimnusa lotelechun. On n'ira pas en courant. On n'ira pas en s'enfuyant. On ira la tête haute. Donc, quelqu'un qui est là. J'ai pas dit ça. C'est pas ce que j'ai dit. Ça n'a rien à voir. C'est une question personnelle, ça. Décider de faire l'alia ou pas, c'est une question personnelle. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut garder la tête haute. On ne doit pas être là, baisser la tête. Parce que quand Mashiach va venir, on ne se sauve pas. On garde la tête haute. Ufaratzta. Et c'est la même chose. Ça veut dire que matériellement, on doit être comme ça, on doit être droit. Et que c'est pour ça qu'on ne doit pas avoir peur d'être dehors dans la rue, avec une kippa, avec un chapeau. Ah, mes enfants, ils sont dehors dans la rue, avec une kippa, etc. On n'a pas peur. De qui on a peur? De quoi tu crois? Et ça fait un siècle, peut-être on aurait eu peur. Deux siècles, peut-être on aurait eu peur. Ça, c'est terminé, ça. Aujourd'hui, on s'approche de Mashiach, et plus on s'approche de Mashiach, et plus on doit être fier d'être juif. Ne pas se sauver. Pas qu'on sent qu'on se sauve de quelque chose. Et qu'on veut ou se sauver, ou donner le sentiment aux autres que tu veux te sauver. Je me sauve pas, moi. Moi, je suis bien. Je me sauve pas. Je vais vers Mashiach. On avance vers Mashiach. C'est la même manière. C'est la même manière qu'aujourd'hui, on n'a pas peur. Que le rabbi, on a vu que donc c'était sa Nessiout, parce que le 10 Shvat, 5710, le 10 Shvat 5710, donc 1950, c'est la date à laquelle le rabbi précédent est parti de ce monde. Et un an plus tard, c'est la date à laquelle notre rabbi a pris la Nessiout, a pris la direction du mouvement Chabad. Et déjà depuis l'époque, à la fin de l'époque du rabbi précédent, il avait dit, il faut envoyer des gens, il faut envoyer des shluchim, il faut envoyer des gens qui vont aller dans des endroits qui sont des déserts spirituels. Et ils vont aller là-bas. Ils vont aller à Katmandou, ils vont aller en New Zealand, ils vont aller où tu veux, ils vont aller à Tokyo, ils vont aller où tu veux, en Inde, ils vont aller où tu veux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Ils vont aller à Times Square, ils vont aller où tu veux. Des endroits qui sont le summum de la matérialité de ce monde. Et sans baisser la tête, on va allumer la lumière de la Torah et de la Chassidut dans un endroit comme ça. Ça, il faut savoir que jusqu'à il n'y a même pas un siècle, c'était inconcevable. C'est-à-dire, un juif, il baissait la tête dans un endroit comme ça. Même pas, il pensait qu'un jour il va y aller. Il se sauvait dans un endroit comme ça.
Il
y rentrait même pas. Et nous, quand on se dit aujourd'hui qu'on va aller dans un endroit comme ça pour amener des juifs à la Torah et qu'on va à la tête haute, ça veut dire que mamash, on est en train de s'approcher vers Mashiach. Et c'est la même chose. Quand par exemple, on dit qu'on va utiliser tous les moyens de communication possibles. On va utiliser l'internet, on va utiliser la radio, on va utiliser la télévision s'il le faut. Toutes les techniques, toutes les méthodes de publicité, on va les utiliser pour aller amener encore un juif et encore un juif pour le ramener à la Torah. On va utiliser tous les gimmicks possibles de publicité, des trucs qu'on va trouver, d'accord? Avec des publicités, tout ce que tu veux. On va essayer de ramener comme ça. Pourquoi? Parce que, encore une fois, l'approche d'aujourd'hui n'est plus une approche où on baisse la tête. L'approche d'aujourd'hui, on doit lever la tête. Parce que, à l'époque, quand on est sorti de Mitzrayim, d'Égypte, on devait sortir en s'enfuyant. Il fallait s'enfuir. Mais de nos jours, on s'enfuit pas. Mais Mnoussa le Télérun. Là, c'est un point très important sur lequel le rabbi a insisté. Par exemple, il y avait des fois des rabbinim qui étaient au Maroc, etc. On a retrouvé des lettres que le rabbi a adressées à des rabbinim au Maroc qui comptaient partir. Et le rabbi a dit, vous enfuyez, il faut pas s'enfuir. faut pas s'enfuir. Le jour où toutes vos communautés, ou l'extrême majorité de votre communauté aura quitté, là, vous pourrez partir. Mais quel sens ça a qu'un rave y parte? Il s'enfuit? On s'enfuit pas, c'est terminé, on s'enfuit plus aujourd'hui. Faut pas s'enfuir. Aujourd'hui, on va vers Mashiach, la tête haute. Et on doit utiliser toutes les techniques. Et ça, c'est, aujourd'hui, ça nous a l'air, bon, quelque chose de normal. Utiliser Internet, la radio, la télévision pour diffuser la Torah, c'est quelque chose de normal. Mais sachez que, parmi les premiers, je crois même, c'est même le premier qui l'a fait, qui a commencé à diffuser les cours de Torah à la radio, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore la télévision, c'était le Rabbi, qui a poussé le Rav Weinberg. Le livre que vous avez dans la main, là, le livre Leçon de Tania, vous savez comment il est venu ce livre? Je vais vous raconter l'histoire. Le Rav Weinberg, c'était un jeune homme qui venait de se marier, et il voyait que le rabbi parlait beaucoup de l'importance de diffuser la chassidoute, de diffuser à des gens qui n'ont pas écouté. Et lui réfléchissait, il disait, mais si on diffusait la chassidoute, si on diffusait un cours de chassidoute à la radio, bah, il y avait une chaîne juive, mais bon, c'était une chaîne juive dans laquelle il n'y avait pas de cours, il n'y avait rien de tout ça, c'était juste pour les infos juives, en yiddish, etc., communautaire. Et bon, il a posé la question une fois, deux fois, trois fois. J'en ai toujours eu. Et donc, il a écrit plusieurs fois au rabbi à ce propos, et le rabbi ne répondait pas. Des fois, il posait 10 questions au rabbi, le rabbi répondait sur toutes les autres questions, ces questions, il ne répondait pas. Bon. Et à chaque fois, lui, c'est vraiment, ça lui tenait à cœur, il voulait le faire. Il a écrit une fois, et à chaque fois, il trouvait les autres occasions, etc. Et à la fin, une fois, au bout de, je crois, c'était au bout de 2 ans, il a craqué, et quand il est parti voir le rabbi directement, c'était pour son anniversaire, et il a demandé au rabbi, il a dit, rabbi, pourquoi vous me répondez pas, pourquoi vous me laissez pas faire ça? Alors le rabbi lui a dit, il a fait comprendre, tu es encore jeune, tu vas aller parler à des centaines de milliers de personnes, qui va corriger, qui va s'assurer? Alors il a dit, rabbi, je vais faire un deal avec vous. Je vais écrire mon cours avant de le faire. Je vais l'écrire. Parce qu'il parlait en yiddish à la radio, pour les gens qui comprennent le yiddish. Je vais écrire mon cours. Et avant de donner le cours, le cours était tous les Motsei Shabbat, je vous le donne à corriger. Et tant que vous ne l'avez pas corrigé, je ne dis rien. On avait dit d'accord, s'il fait comme ça, c'est bon. Donc il a écrit, et on a, Baruch Hashem, grâce à ça, on a eu des centaines et des centaines de corrections et de commentaires du rabbi. C'est-à-dire que chaque fois que, alors en fait, c'est ça, ce livre que vous avez, Leçon du Tania, c'est en fait un livre qui est traduit. Bon, ça c'est traduit directement, c'est traduit de l'anglais ou du yiddish. À la base, il a écrit en yiddish, Shiurim Besefer Atania. Et Shiurim Besefer Atania, c'est ce qu'il a écrit en yiddish. C'est ce qu'il a écrit en yiddish, qui a donné à corriger au rabbi. Et c'est pour ça que souvent, vous voyez en bas, bon, là, dans les chapitres qu'on fait maintenant, il y a moins, mais je vais vous montrer. Je vais voir si je vais trouver ici une... voilà. Des notes. Et souvent... Pas dans les chapitres qu'on fait maintenant. Voilà. Par exemple, vous voyez, là, si je prends la page 123, gardez votre page en 118. D'accord ? Voilà. Note 6. La note 6. La note 7. La note 8. Le rabbi s'interroge sur... C'est quoi ça ? Tout ça, en vérité, c'est des notes du rabbi. C'est des notes que le rabbi a fait sur sa transcription de son cours. Et donc, grâce à ce Rav, on a aujourd'hui ce livre, qui est une façon de pouvoir faire le Tania de façon assez basique, sans rentrer dans toutes les complications et dans tous les commentaires. Et on a des notes du Rabbi, des notes extraordinaires. Par exemple, je vous donne une des notes du Rabbi.
Vous faisiez un cours de Tania à la radio?
Pardon?
Donner cours de Tania?
Oui, à la radio. Cours de Tania? Cours de Tania, à la radio. Et d'ailleurs, au passage, vous savez que par la suite, le Rav Stendlatz aussi a fait cours de Tania à la radio. Et grâce à ça, il y a une série de livres, de commentaires qu'il a sur le Tania, que je cite assez souvent. Mais regardez, on va loin. Prenez la page 77. Dans une note...
Là, les audiences.
Oui. Enregistrez. Alors, on va reprendre la page 117. C'est en yiddish. Dans une note, le rabbi remarque que ceci permet de comprendre pourquoi, à l'heure de la délivrance, Dieu ne les retint pas même un seul instant en Égypte. Vous voyez, c'est-à-dire que tout à l'heure, je vous l'ai dit, ça. Mais ça, c'est quelque chose, c'est une note du rabbi. Sur le Tania. Donc c'est extraordinaire. Donc pourquoi je vous dis tout ça? On aurait pu dire aujourd'hui, il faut se sauver de l'exil. S'il faut se sauver de l'exil, est-ce que c'est normal d'aller maintenant faire un cours de Torah à la radio? C'est dangereux. La radio, surtout à l'époque, c'était très mal vu. C'était pas un médium qui était utilisé pour diffuser la Torah. Qu'est-ce que tu vas diffuser la Torah là-bas? Ça, alors encore une fois, c'est pas que dans une maison juive, dans une maison religieuse, on doit avoir la radio. C'est pas ce que j'ai dit. Dans la radio, il y a beaucoup de bêtises. Et moi, mes enfants, je leur respecte écouter la radio, évidemment. Moi, j'écoute pas, j'ai pas de raison. La question n'est pas là. La question n'est pas est-ce que dans la radio il y a des bêtises ou pas. La question est que comme je marche la tête haute J'ai pas peur d'aller dans le camp de l'ennemi et dans le camp de l'ennemi diffuser la Torah. Chose qui était inconcevable il y a même pas un siècle de ça. Aller dans le camp de l'ennemi et diffuser la Torah. Mais non. Si, moi j'ouvre la porte de chez moi, s'il si rentre chez moi et toque à la porte, il rentre. Mais je dois me protéger chez moi des autres. Et là, quand on va à la méthode Chabad, et aujourd'hui pas que Chabad, aujourd'hui. D'accord? Et pas seulement que j'ouvre la porte de chez moi, mais je sors carrément dehors. Je vais chercher l'autre dehors. La question est ça, c'est une méthode messianique.
C'est pas que la peur, la question. La question est aussi à l'Afrique, est-ce qu'on aura utilisé
Oui, exactement.
Tamé, entre guillemets, pour diffuser de la Torah.
Exactement, c'est une question.
C'est la même question qu'on se pose quand les Américains, ils veulent faire Kippour et Rosh Hashanah dans des grandes églises parce qu'il y a plus de place et des machins. C'est une question qui a été posée.
Oui.
C'est la même. Le même.
Ça veut dire que jusqu'à où on peut aller en ayant la tête haute. Mais ça, il faut bien comprendre que ça, c'est quelque chose de nouveau. Quand, par exemple, qu'on soit en France, qu'on soit aux États-Unis, c'est encore plus fort que ça aux États-Unis. Aux États-Unis, par exemple, les lobbies juifs. D'où ça vient, ces notions de lobbies juifs, ça? Ça n'existait pas. Tu vois, il y a un siècle, ça n'existait pas, même pas en rêve. C'est quoi un lobby? Ça veut dire quoi un lobby? Ça veut dire qu'on a la tête haute. On baisse pas la tête. On a la tête haute. L'État d'Israël, c'est ça aussi. On a la tête haute. Et le rabbi explique que plus on va avancer vers Mashiach, plus c'est important d'avoir la tête haute. C'est pour ça, moi, ça m'a frustré quand j'ai entendu la semaine dernière cette polémique, qui n'est même pas une polémique sur la kippa. C'est pas de polémique. Et où est la polémique? Quelle polémique? Ça veut dire qu'on baisse la tête. Alors, bien sûr qu'on fait attention. Je vais pas dire à mon fils d'aller se balader dans une cité avec une kippa. Faut pas être fou non plus. Mais c'est un débat qui n'a même pas lieu d'être. Parce que plus on doit avancer dans ma chair, et plus on doit éduquer nos enfants à avoir la tête haute, pas à marcher courbé, à aller diffuser la Torah, à aller diffuser les mitzvot. Et vous savez, un goy, il sent quand on a peur.
Oui.
Hein? Donc, tout le monde sent. Bien sûr. C'est comme... il faut toujours marcher la tête haute. C'est ça, Yehudi. Prendre appel Mordechai Yehudi. Yehudi, en hébreu, ça vient de Yehuda. Yehuda, en hébreu, celui qui est fier. Yehuda, c'est celui qui est venu voir Yosef, quand il ne savait pas que c'était Yosef, et qui a tapé du pied. Il a dit, s'il y a un problème, il l'a affronté. Et c'est comme ça qu'on est aujourd'hui. Plus on avance dans ma chair, et plus on doit être comme ça. Alors, c'est la raison pour laquelle, on va continuer maintenant.
Il a affronté, il y a le front.
Oui, le front.
C'est ça, non, c'est vrai, c'est oui. Qu'il montre.
Il faut pas baisser la tête. C'est une très mauvaise approche de baisser la tête.
À propos de la kippa, puisque tu en parlais, il y a deux groupes de supporters marseillais qui vont jouer un match demain soir. Ils ont fait un appel pour qu'ils portent une kippa ou une casquette ou un truc comme ça, en solidarité avec.
Raïm Korchia, le grand rabbin
qui a été suivi par deux groupes de supporters marseillais.
Raïm.
Donc il faut.
Ça mérite d'aller Raïm.
Le début, c'est la finale, c'est un match de Coupe de
France. Vas-y.
Demain, quand on parle de Machia qui va venir, vous appelez. Et il n'y aura plus de marche arrière. Vous allez dire que la porte du retour en arrière.
Elle n'existe plus.
Couleur violette.
À l'époque de la sortie d'Égypte, Moshe est présenté comme un libérateur. Je ne sais pas si on peut dire
Moshe. C'est un libérateur. Mais l'Égypte existait toujours.
C'est quoi la différence? Parce que d'un côté, on te dit, la chiar, il arrive, il y a la porte du retour, elle est fermée, c'est fini, c'est terminé.
Ça, c'est la différence.
On change de...
C'est ça la différence. C'est la différence. Principale.
Et pourquoi on n'a pas fermé la porte?
Parce que le moment était pas. Parce que l'impureté de l'Égypte était encore là?
Ça, c'est un soir.
Elle n'était pas réglée? Mais il est écrit qu'au don de la Torah, on avait réussi à éradiquer l'Égypte, le mal de l'Égypte. C'est pour ça que là, ça aurait pu être ma chère. Mais après, on a refauté, donc on est retombé. Ok, Raboteur, on va terminer le chapitre. Avec ça. Il dit maintenant, là, de Morazaken. Morazaken, il explique, il dit que la simcha qu'on doit avoir, veliyot prinat tshuvazo veyeter se'et veyeter az me'umka deliba. L'Admor HaZaken maintenant va expliquer un point très important. Il dit que la simcha sera pas seulement la simcha de l'âme divine, que l'âme divine a pu sortir un petit peu de l'Égypte comme on a pu sortir de l'Égypte, bien que l'Égypte est toujours là. C'est ce que je voulais expliquer. Quand on est sorti d'Égypte, mais l'Égypte était toujours là. De la même manière, quand j'arrive à lever un peu la tête pour revenir à notre sujet, et que Baruch Hashem j'ai fait une mitzvah, même si mon corps et mes bêtises sont toujours là, mais ce que j'ai pu gagner, j'ai gagné. Mais là, il y a quelque chose qui est encore plus fort que ça. Qu'est-ce qui est encore plus fort que ça? Il y a une simra qui est encore plus fort que ça. Pourquoi? Non seulement que le fils du roi sort de l'exil, mais encore plus que ça, le fils du roi, quand il va revenir en exil, il va revenir de l'exil avec un butin. C'est quoi le butin? Le butin, ce qu'il a expliqué ici, il dit Ka'asher yashiv el libo da'at udvuna le nachamo be itzvono ou be igono les morts en disant qu'un esker leel en emet koule. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire finalement. C'est vrai que j'ai fauté, j'ai fait des bêtises, etc. Mais à cause de qui j'ai fait toutes ces bêtises? À cause de qui je suis comme ça? Et qui a créé de ça? Ah, cependant, et là vous allez voir que c'est magnifique ce que je vais dire ici. Alors, je suis en bas de la page. Alors, N et M. Ah, Annie, voilà, je suis à l'avant-dernier paragraphe 78. Ah, cependant, Annie, Loasiti et Tatsmi, je ne me suis pas créé tout seul. Qui m'a créé? Qui c'est qui m'a créé? C'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? Velama Hashem Asa Hashem Kazot Leorit Chelek Meoroit Barer. Pourquoi Hashem a fait comme ça de faire descendre une partie de sa lumière infinie à Memale Vesovev Kolamim Kula Kamel Kalachashim? Une lumière qui est tellement grande, Veil Bishov Mishra de Chivia, et qu'il l'a habillé dans la peau du serpent, dans mon corps. Veti Pasrucha, et dans une goutte de sperme, une goutte qui est sale. Enze Ki Imiri Daitzorech Aliya. Là, c'est magnifique ce qu'il dit ici. Il dit, qu'est-ce que tu crois? Si Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre Maneshama dans un corps, tu crois que le but, c'est juste de sauver les meubles et que la Neshama arrive à se sauver in extremis à la fin? Dans ce cas-là, à quoi ça servit tout ça? Vous me suivez, M. Benita? Si tu me dis comme ça, qu'il y avait un corps qui est tout sale, la Neshama, elle descend dans ce corps. Et après un moment, elle arrive un petit peu à sortir. Elle arrive à se sauver. Elle dit, ah, Baruch Hashem, elle s'est sauvée. Mais attends, Ichmar, pourquoi elle est descendue? Si elle est descendue pour se sauver, qu'est-ce qu'on a gagné? Donc c'est sûr que si elle est descendue, c'est parce qu'on comptait récupérer quelque chose en revenant qu'elle n'avait pas avant qu'elle descende. Ce qu'on appelle Yerida, Letzorer, Aliyah. Une descente pour mieux remonter.
Pour soigner.
Le'alot kol nefesh achiyunit abemit shemiklipat noga, v'chol levushéa, en marshavat zibur masashela, et dit que la chenem masashela dit marshavat Torah. Ve'im ken efo, zot eese, ve'zot yé kom lagmati, kol yemecheldi, la chol ba'en et chaye ruchi venafshi, comme moi, c'est que tu as dit, et ça, je traduis tout de suite, le kasha marchef tibi divori, marchef tibi divori de barer. On va dire qu'il est très simple. Il dit comme ça. Si la Neshama est descendue sur terre, c'est pas pour qu'on dise après, elle a réussi à s'enfuir. En s'enfuyant, elle doit prendre du butin avec elle. C'est quoi le butin que la Neshama va prendre avec elle? Le butin que la Neshama va prendre avec elle, c'est chaque fois qu'on va réussir à prendre un petit peu le corps, à tirer le corps dans une mitzvah. C'est-à-dire, par exemple, quand on est venu maintenant ce soir à un cours de Torah, on aurait pu rester à la maison. On est venu à un cours de Torah. Qui est venu au cours de Torah? C'est peut-être la Neshama qui a poussé à venir au cours de Torah, mais qui c'est qui est venu au cours de Torah? La Neshama et le corps. Avec quoi j'ai écouté le cours de Torah? Avec mes oreilles. Avec quoi j'ai marché pour venir au cours de Torah? Avec mes pieds. D'accord? Avec quoi je me suis tenu pour écouter? Avec mon cerveau, avec mon dos, avec tout ce que tu veux. Ça veut dire qu'au final, mon corps a été raffiné. Et ça, c'est une raison supplémentaire d'être Bessimra. D'abord, je suis Bessimra parce que mon âme a réussi à quitter, le prince a réussi à quitter le mal dans lequel il se trouvait, numéro un. Mais numéro deux, non seulement que le prince a réussi à quitter le mal dans lequel il était, mais le prince a ramené du butin avec lui de chez l'ennemi. C'est quoi le butin que le prince a ramené avec lui? Le butin que le prince a ramené avec lui, c'est qu'on a raffiné un petit peu le corps. Et donc, la Morazak Kennedy, double raison d'être Bessimra. Même si je suis passé par une phase de tristesse de dire « Regarde comment je suis descendu », double raison d'être Bessimra. Bessimra parce que j'ai réussi à m'enfuir du mal. Bessimra parce que non seulement j'ai réussi à m'enfuir du mal, mais pendant le moment où je suis en train de faire la mitzvah, je prends du butin avec moi. Je suis en train de récupérer une partie de mon corps et l'élever vers Akadosh Baruch Hu. Donc voilà pourquoi je dois être Bessimra. Et c'est pour ça il dit Le Bénouni, quand il entend ça, il se dit, je vais décider maintenant d'avoir un maximum de pensées cachères, de paroles cachères, d'actions cachères, et que chaque fois que j'ai une pensée cachère, une parole cachère, une action cachère, eh ben, je vais raffiner un petit peu mon corps. Donc, ce serait une raison supplémentaire d'être Simra. Donc, conclusion du cours d'aujourd'hui. Il est évident que le but de la teshuva, c'est d'arriver obligatoirement à la joie. Si on n'a pas la joie, on est passé à côté de la plaque. On est passé complètement à côté de la plaque. Le but, c'est l'étude, l'action, la pensée, la parole, l'action. Il faut faire tout ça. Et il faut savoir que chaque fois qu'on le fait, la Neshama s'enfuit des bêtises du semonti. Et non seulement qu'elle s'enfuit, elle tire avec elle le corps. Et grâce à ça, Baruch HaShem, on peut avancer. Donc, raison supplémentaire pour être Bessimra. Alors, ça, c'était, avec ça, on termine Be'ezrat HaShem, le chapitre 31. Et on termine une section du Tanya. On termine une section du Tanya, un tronçon, puisque depuis le chapitre 26, on a commencé à parler des notions comment combattre la dépression et la négativité. Comment combattre ? Et là, vous avez vu qu'on a fait Baruch HaShem un bon chemin, un sacré chemin. On a expliqué longuement comment, d'abord, il y a plusieurs types de dépression. Plusieurs types de choses qu'on doit combattre. Pourquoi une personne n'est pas bien ? Est-ce qu'il n'est pas bien à cause du problème de ce monde-ci ? Est-ce qu'il n'est pas bien parce qu'il sent que ça n'avance pas ? Est-ce qu'il n'est pas bien parce qu'il a des pensées pas cachères ? Et chaque chose, on a expliqué comment ça fonctionne. On pourrait le réviser. Et surtout, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup insisté, les derniers cours, sur l'importance de la simra, mais sans pour autant être dans le déni. Parce que très souvent, les gens joyeux, c'est les gens bêtes. Dans notre tête, on dit, ouais, celui-là, il est joyeux, bon, il est bête. D'accord ? Alors que non. Nous, on doit être joyeux sans être bête. Je suis joyeux sans être dans le déni. Je suis joyeux parce que Baruch HaShem, chaque fois que j'ai réussi à m'enfuir de l'exil, de l'Égypte, même pour un instant, je suis Bessimra. En plus, si en plus que je me suis enfui, j'ai pu tirer avec une partie du corps, raison de plus pour être Bessimra. Be'ezrat HaShem, la semaine prochaine, on commencera un nouveau chapitre. Le chapitre 32. On avait fait une partie, début de ce chapitre, j'avais fait quelques lignes. Au Fabringue qu'on avait fait, ça fait quelques semaines. Et donc, Be'ezrat HaShem, on recommencera. Donc, le chapitre 32, lève. Parler de l'importance de Ahavat Israël, l'amour du prochain. C'est chapitre 32 et 33. L'amour du prochain. Après, on aura des petits thèmes. Des petits thèmes comme sur la Tzedaka, comme sur le but du monde. Pourquoi le but du monde est écrit? Qu'est-ce que c'est? Le fameux chapitre 36 que Michael attend depuis des années. D'accord?
C'est 36 et dans 6 mois. Mais...
Pourquoi? Oui, on arrive là. C'est des petits chapitres après.
Ah, oui.
Les petits chapitres. Voilà. Vous les rattachez. En tout cas, on a fini avec ça, un tronçon, l'importance de la simra.
C'est la saison 6.
On va du tout pourquoi tu es joyeux.